Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Comment survivre à sa propre famille » de Moni Alkham. Avec le concours de Caroline Glorion, est un ouvrage de psychologie clinique consacré aux conflits familiaux et à la thérapie systémique. Alkham, neuropsychiatre et figure majeure de la thérapie familiale en Europe. Il met son expérience clinique au service de lecteurs non spécialistes sans abandonner la rigueur de son cadre théorique. Le livre part de situations ordinaires, mais souvent douloureuses, enfants en difficulté scolaire, couple bloc, secret familial pesant, conflit entre générations. Son propos central consiste à déplacer le regard une souffrance familiale ne se comprend pas seulement comme un problème intérieur porté par une seule personne, mais comme le résultat de rôles, de loyauté, d'auteur et de représentation qui circulent entre les membres. Le but ne consiste donc pas à désigner un coupable, mais à rendre visibles les scénarios relationnels qui maintiennent la souffrance et à montrer comment un changement de position peut transformer tout le système. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la famille comprise comme un système de relations circulaires. Le livre expose une idée centrale de la thérapie familiale systémique. Une difficulté familiale ne se réduit pas à une cause unique située dans une personne isolée. Au lieu de chercher qui a comment ou qui a raison, Alkham invite à observer les boucles de réaction. Un parent insiste, un enfant se ferme, le parent augmente la pression, puis le retrait d'enfant confirme la peur initiale du parent. Ce type de circularité produit une logique autonome, parfois plus forte que les intentions conscientes des personnes. Le symptôme porté par un membre, souvent appelé patient désigneux dans la tradition systémique, devient alors un signal qui concerne la famille entière. Il peut maintenir un équilibre paradoxal douloureux pour chacun, mais familier et stabilisateur pour le groupe. Cette lecture ne nie pas la responsabilité individuelle, mais elle évite de moraliser le conflit. Elle montre que chaque comportement prend sens dans un contexte relationnel. Comprendre ce mécanisme permet de déplacer la question de la faute vers celle de la fonction que permet ce symptôme, que protège ce conflit. Quelle cohésion fragile maintient cette répétition? Deuxièmement, la représentation familiale comme piège plus puissant que les faits. Un apport marquant d'ouvrage tient à la distinction entre la réalité vécue et la représentation construite de cette réalité. Alkham soutient que les familles ne sont pas seulement enfermées par des événements objectifs, mais par les significations accumulées autour de ces événements. Une parole ancienne, une absence, une préférence supposée ou un secret peuvent être intégrés dans un scénario durable. Chaque membre agit ensuite comme si ce scénario était la seule description possible de la situation. Cette idée explique pourquoi des conflits semblent résister aux explications rationnelles. Les personnes ne répondent pas uniquement à ce qui se passe au présent. Elles répondent aussi à une mémoire affective, à une attente de rejet, à une peur de trahison ou à une loyauté invisible. Le livre rend cette thèse accessible en montrant que modifier la représentation ne revient pas à nier la souffrance. Il agit plutôt de redonner de la mobilité au récit familial. Quand une personne découvre que son rôle peut être interprété autrement, le système perd une partie de son caractère fatal. Troisièmement, les transmissions transgénérationnelles dans la répétition des conflits, Alkham accorde une place importante aux transmissions entre générations. Les conflits familiaux ne naissent pas toujours dans la relation visible entre deux personnes présentes. Ils peuvent réactiver des blessures plus anciennes, des modèles éducatifs subis puis répétés, ou des loyautés envers des parents disparus ou idéalisés. Le livre souligne qu'un parent peut reproduire avec son enfant une attitude dont il a lui-même souffert, sans le vouloir et parfois sans la reconnaître. Cette répétition ne relève pas seulement de imitation consciente. Elle peut fonctionner comme une protection psychique, critiquer le modèle reçu obligerait à remettre en cause des figures parentales aimées, ou à reconnaître une douleur jamais élaborée. Les secrets de famille et les mythes transmis jouent aussi un rôle dans cette continuité. Ils organisent ce qui peut être dit, ce qui doit être tu, et ce que chaque génération croit devoir réparer ou porter. La perspective transgénérationnelle enrichit ainsi la compréhension du conflit. Elle évite de limiter le problème au présent et montre que certaines réactions prennent leur force. Dans une histoire plus longue, quatrièmement, le thérapeute comme tiers qui sécurise la différenciation dans la démarche présentée. Le thérapeute ne se contente pas de distribuer la parole ou de décider qui interprète correctement la situation. Son rôle consiste à créer un espace tiers où chaque personne peut être entendue sans que cette écoute renforce automatiquement le camp adverse. Cette position est essentielle dans les familles polarisées, car toute parole nouvelle risque sinon de devenir une arme de plus dans le conflit. Alkham insiste sur une posture bienveillante et sur une orientation positive, chercher la fonction possible d'un comportement, même problématique, plutôt que réduire la personne à ce comportement. Le tiers thérapeutique facilite aussi la différenciation. Il aide chaque membre à percevoir sa propre place dans la boucle relationnelle, sans se confondre avec la demande ou la douleur des autres. Cette sécuritaire rend possible une modification du lien. Les personnes peuvent commencer à parler autrement, à tester une proximité moins menaçante, ou à reconnaître une souffrance réciproque. La méthode décrite est pragmatique. elle vise moins une explication définitive qu'une transformation observable des interactions, en dernier lieu. Changer son propre rôle pour modifier la scène familiale, le livre ne promet pas qu'une personne puisse contrôler toute sa famille. Mais il propose une idée pratique, forte changer sa propre position peut modifier les réponses du système. Dans un scénario familial répétitif, chacun joue souvent un rôle attendu, même en cherchant à le refuser. Celui qui se justifie constamment confirme parfois la place de l'accusé. Celui qui protège tout le monde peut empêcher les autres de devenir responsables. Celui qui attaque pour ne pas être rejeté peut provoquer le rejet redoute. Elkin m'invite donc à repérer les gestes, paroles et attentes qui maintiennent la pièce relationnelle en place. La force de cette proposition tient à son réalisme clinique, le changement ne vient pas d'une simple décision morale, mais d'une compréhension des boucles et des peurs qui rendent le rôle nécessaire. Modifier sa place peut produire un déséquilibre temporaire, car la famille tend à préserver sa cohérence. Pourtant, ce léger déplacement ouvre une possibilité si un acteur ne répond plus exactement comme avant, les autres doivent ajuster leur propre conduite. En conclusion, comment survivre à sa propre famille convient aux lecteurs qui vivent des tensions familiales persistantes et veulent les comprendre sans chercher un coupable unique. Il peut aussi intéresser les psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux et étudiants en relations aide, car il présente les notions systémiques dans une langue relativement accessible. Son bénéfice principal est intellectuel autant que pratique, il apprend à regarder un conflit comme une organisation de rôles, de récits et de loyauté plutôt que comme une opposition simple entre victime et responsable. Cette approche aide à formuler de meilleures questions que protège ce comportement. Quelle répétition est en jeu? Quelle représentation enferme chacun? Tel changement de position reste possible? Le livre se distingue de nombreux ouvrages de psychologie familiale par son ancrage clinique et systémique. Il ne propose pas une liste de conseils universels, ni une lecture uniquement individuelle des blessures. Il montre au contraire que la famille forme un contexte vivant, parfois douloureux, mais transformable lorsque ses boucles deviennent visibles. Sa singularité tient aussi à la combinaison entre rigueur thérapeutique et pédagogie, les concepts de circularité, de patient désigné, de transmission et de tiers thérapeutique sont reliés à des situations concrètes, ce qui rend la réflexion utile sans la simplifier excessivement. Si vous souhaitez soutenir mon Yelkam, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.